L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, gloire à Dieu, on est dans une série qu'on a commencée il y a quelques semaines. On est à notre quatrième réunion dans le thème « L'école de l'Esprit ». L'école du Saint-Esprit, et on a eu du bon temps jusqu'à date, je crois, où on grandit dans les voies de Dieu, on veut s'ouvrir aux choses surnaturelles que Dieu veut faire à travers nos vies, dans notre assemblée. On croit dans le surnaturel aujourd'hui, on ne fait pas partie de ces églises-là qui vont dire, Dieu est bon, Dieu existe, mais Dieu fait plus rien aujourd'hui, Dieu est à la retraite. Non, nous croyons que si Dieu a existé et s'il existe aujourd'hui, il veut encore agir parmi nous. Mais des fois, quand on est ignorant puis on sait pas qu'est-ce que Dieu veut faire ou comment Dieu va opérer, puis on n'a pas la foi relâchée pour vivre ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est à l'école, on apprend ensemble à partir de la parole de Dieu comment nous pouvons marcher et opérer dans les dons spirituels. Toujours, toujours selon la parole de Dieu. Comme j'ai dit, parce que c'est ça notre autorité c'est la parole de Dieu. Alors, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce matin, on va continuer dans les dons spirituels. Et cette fois-ci, on va parler des dons de puissance. La semaine passée, nous avons vu les dons de révélation. Cette semaine, c'est les dons de puissance. On a fait trois dons spirituels à date. On a 9. Comme nous savons dans la parole de Dieu, il y a 9 dons spirituels. Amen. Alors, ce qu'on va faire avant d'aller plus loin, on va juste pencher nos têtes et on va prier, remettre ce temps au Seigneur. Père éternel, on te remercie encore une fois pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, aussi pour ton esprit qui nous guide dans toute la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous guider, nous conduire. Et merci parce qu'on peut marcher avec le cœur en paix, sachant qu'on marche avec toi. On a prié au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui est ici. Je prie que tu puisses ouvrir l'intelligence de chaque personne pour qu'ils reçoivent ta vérité aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire ensemble, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 12 et on va aller au verset 1. On va commencer au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 1. Il est écrit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels ou les dons de la grâce, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « Jésus est maudit ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Ici, le mot « don », c'est « charismata », ce qui veut dire « les dons de la grâce ». Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Au verset 6, « diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous ». Verset 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Remarquez au verset 7, il est écrit, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune ». L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, on vient de voir les dons et je vais juste vous donner, récapituler un petit peu les dons de révélation. Donc, on parle le don de la parole de sagesse. On se rappelle, c'est pas le don d'avoir de la sagesse. Des fois, les gens sont mélangés, mais on parle ici le don de la parole de sagesse. Si vous voulez vraiment baigner dans l'étude qu'on est en train de faire, vous pourrez aller tout réécouter sur le site web. On prendra pas le temps aujourd'hui de tout reviser parce que ça prendrait trop de temps, mais vous pouvez aller les écouter gratuitement. Et en passant, vous pouvez les télécharger gratuitement en plus maintenant. Vous pouvez les télécharger sur votre iPod et les écouter en faisant du jogging. Don de la parole de connaissance. Encore une fois, parole de connaissance, c'est pas juste quelqu'un de super intelligent, mais c'est quelqu'un qui reçoit une parole de connaissance pour une personne. Et don du discernement des esprits. Donc, on a vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, on parle don de puissance. donc les dons qui vont faire quelque chose, qui démontrent quelque chose. On va parler des dons de la foi, dons des guérisons et dons d'opérer des miracles. Donc, certains d'entre vous, peut-être, vous vous dites, j'aimerais ça, moi, vivre plus de la puissance de Dieu. Amen. Oh, wow, ça me bénit. Je suis sûr que le cœur de Dieu se réjouit. Ah, ils ont vraiment soif, eux autres. Amen. Don de puissance. Ah, bon, là, il me semble, peut-être Dieu va dire, OK, là, je vais leur donner plus. Hein? Faut avoir soif de Dieu, là. Bon, don de puissance. Les dons de la foi, dons de guérisons, dons d'opérer des miracles. La semaine prochaine, on va probablement voir les dons d'inspiration, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. On va voir ça, mais j'ai la foi que ça va me prendre tellement de temps aujourd'hui qu'on ne se rendra pas là. Comme j'ai dit la semaine passée, je vais prendre mon temps. Parce que vous savez, des fois, je pourrais prendre les 9 dons et tout expliquer dans la même réunion et vous allez juste sortir bombardé d'informations puis ça ne va rien vous servir. Mais, gloire à Dieu, on y va lentement. Hein? Oui, ma femme. Je vais lentement. OK. Les buts des dons, comme on a dit, le but des dons, c'est pour avoir un étampe ou un badge d'honneur. Comme ça, tout le monde va nous admirer et vous nous honorer. Ils vont dire, waouh, ça, c'est un chrétien glorieux. Le but des dons, non, c'est d'être un outil entre les mains de Dieu pour bénir les autres. Donc, c'est toujours pour les autres. Vous avez remarqué, notre sœur Brigitte a donné une parole prophétique. C'est une parole pour édifier, pour bâtir. Parce que des fois, il y a des gens qui vont se sentir liés au passé, qui vont être découragés, vont se sentir culpabilisés par le passé. Puis là, le Seigneur, à travers notre sœur Brigitte, a donné une parole d'exhortation, une parole d'édification, une parole pour nous encourager à tourner les yeux vers lui au lieu de garder nos yeux vers l'arrière. Amen. C'est bon, ça, c'est une bonne parole. Et l'objectif, c'était de vous bénir, n'est-ce pas? C'est toujours ça. C'est de vous édifier, vous bâtir. J'ai déjà vu des paroles prophétiques. Par contre, c'était dans d'autres assemblées en passant. « Ah, vous êtes tous des moins que rien. Je suis tellement écœuré de vous autres. » Dit avec des beaux termes de Louis II. Là. Mais c'est servant à dire la même chose. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça vient soit de la chair ou du diable. OK, mais d'après moi, c'est plus la chair. Ça, c'est des gens qui veulent être spirituels puis ils se mettent à juger tout le monde, pensant que, hey, je me pète les bretelles, le Saint-Esprit coule à travers moi, mais vous autres, vous êtes tous des moins que rien. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que les dons du Saint-Esprit, comme on a dit les autres fois, c'est toujours gouverné par l'amour. Donc, c'est la force qui nous pousse à agir, c'est l'amour de Dieu. Alors, si, admettons, quelqu'un est vraiment dans l'erreur, il va avoir une attitude d'amour, où on va enrober la personne dans l'amour de Dieu pour qu'elle puisse se tourner vers Dieu, parce que notre objectif, c'est de gagner la personne à obéir Dieu, c'est pas de l'écraser. Amen? Donc, quand quelqu'un se sent écrasé, puis « Oh, je suis moins que rien », ça, c'est pas de Dieu. C'est pas un don spirituel, c'est l'abus d'un don spirituel. Mais je prêcherai pas la prédication de la semaine prochaine aujourd'hui. Amen. Don de puissance. Alors, le premier don qu'on va voir ensemble, c'est dans les dons de puissance, on va voir le don de la foi. Amen. Don de la foi. Donc, on va examiner les types de foi que nous retrouvons dans la parole de Dieu. La première foi, c'est la foi salvatrice. Donc, on parle la foi que l'on a, mais qu'on place en Dieu. Il y a des gens qui placent leur foi dans toutes sortes de choses. Ils vont placer leur foi dans l'horoscope. Ils vont placer leur foi dans l'évolution. Ils vont placer leur foi dans les diseuses de bonne aventure. Leur foi est là, mais elle ne sauve personne lorsqu'elle n'est pas placée en celui qui sauve. Comme j'ai dit tantôt, le Seigneur, Dieu nous a envoyé son Fils, le Fils Jésus, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés. Quand on place notre foi en lui, on peut être sauvé. Quand on place la foi en nous, on peut pas être sauvé. Je vais juste prendre quelques instants, vous expliquer le salut, parce que c'est super important. On parle de la foi et les types de foi. Donc, la première foi, la foi salvatrice, on doit réaliser premièrement que pour entrer au ciel, on est pécheur et on a besoin d'être pardonné de nos péchés. Il y a certaines personnes qui vont dire, bien, moi, je vais rentrer au ciel parce que moi, je suis une bonne personne. Pour entrer au ciel, le critère d'entrée, ce n'est pas d'être une bonne personne, c'est d'être une personne parfaite. Le critère d'entrée pour entrer au ciel, c'est la perfection. Combien d'entre nous sommes vraiment parfaits? Bien, moi, je suis toujours imparfait. Je sais, vous autres, vous êtes tous parfaits. Mais moi, je suis imparfait. Donc, pour entrer au ciel, j'ai besoin d'être pardonné. Puis, il y a quelqu'un qui a marché la vie parfaite et qui a reçu ma punition. Son nom est Jésus. quand j'ai placé ma foi en Jésus et j'ai réalisé, hey, moi je suis imparfait, mais toi, je sais, tu as vécu la vie parfaite et tu as reçu la punition pour les imparfaits comme moi. Mais lorsque je place ma foi en Jésus, je suis pardonné. Je peux me repentir, dire, Seigneur, je te demande de me pardonner de mes péchés. Je vais arrêter de mettre ma confiance en moi-même, mettre ma confiance dans ma performance religieuse. Je vais mettre ma foi dans ta performance. Jésus est allé mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés. La dette de nos péchés. Quand on réalise, hey, j'ai besoin de Dieu, bien, join the club. Vous venez de réaliser que finalement, hey, je peux être sauvé. C'est simple. La vie chrétienne, pour découvrir la porte du ciel, c'est super simple. Ça prend des hommes pour compliquer l'entrée au ciel. Les hommes vont dire, par exemple, dans l'islam, bien là, il y a les 5 piliers de l'islam. Si vous faites telle ou telle chose, là, vous pourrez être accepté de Dieu. Dans d'autres églises, ils vont dire, mais si vous donnez de l'argent aux pauvres, vous allez être sauvé. Si vous faites ceci, vous faites cela. Si vous allez cogner les samedis matins en frappant à la porte des gens, les réveiller pour leur donner des revues, bien, si vous faites cela, bien là, peut-être vous allez gagner votre salut. Vous connaissez des gens de qui je parle, là. Donc, c'est toujours... Être humain, performe, et si tu es assez bon, Dieu va te dire, OK, tu es assez bon, tu vas rentrer au ciel. Mais ça marche pas de même. Ça, c'est la religion. Avec Dieu, c'est une relation. Dieu nous présente une relation. Il veut qu'on réalise, j'ai besoin d'un sauveur. Il dit, bingo, tu viens de comprendre, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être purifié, tu as besoin d'être lavé et délivré de tes péchés. Alors voilà, je t'accueille, je te reçois, je veux te laver, te purifier. Et là, on rentre au ciel, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on réalise qu'on était imparfait, qu'on avait besoin d'un sauveur. Donc, ceux qui rentrent au ciel, c'est pas les meilleurs, c'est pas les super superstars spirituels. Ceux qui rentrent au ciel, c'est les pardonnés. Ceux qui ne rentrent pas au ciel, c'est pas les plus méchants sur la planète. Ceux qui s'en vont en enfer, c'est les gens qui ont refusé le pardon de Dieu. C'est tout. C'est tout. On peut être une bonne personne religieuse et passer l'éternité séparée de Dieu parce qu'on a refusé le pardon de Dieu, parce qu'on se disait, moi, je suis assez bon comme je suis. Mais vous allez découvrir, rendu au ciel, il y a personne d'assez bon. Il faut être parfait pour entrer au ciel. Il faut être parfaitement lavé, purifié. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez tous en général, mais la religion au Québec et à travers le monde nous présente toujours que la foi doit être dans notre performance. Puis c'est tellement proche, hein? C'est comme, faut être une bonne personne. Oui, on veut marcher dans la sainteté. Oui, on veut marcher et être de bonnes personnes, mais c'est pas comme ça qu'on rentre au ciel. On rentre au ciel en établissant une relation avec Jésus-Christ. Amen. C'est super simple. Moi, j'ai compris à l'âge de 3 ans et j'ai confiance que vous pouvez comprendre ce message-là ce matin. Alors, si vous voulez passer de la mort à la vie, ça vous coûte un mot. Oui. C'est oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Oui, je réalise que je suis pécheur. Oui, je réalise que j'ai besoin de toi. Viendras-tu dans ma vie et me laver de mes vieux péchés et je vais recevoir ta sainteté. Je vais recevoir cette vie nouvelle en toi. Si vous dites oui aujourd'hui, eh bien, vous êtes autant un frère et une sœur. Amen. Vous devenez vraiment, vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes, comme la parole de Dieu nous dit, adoptés dans la famille de Dieu. C'est merveilleux. On ne devrait pas passer à côté de l'invitation de recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie. Ça coûte rien. Jésus, il a payé le prix pour nous. C'est lui, ça lui a coûté très cher. Il a payé au prix de sa vie. Mais nous, aujourd'hui, on a juste à dire, oui, Seigneur, je te reçois. Viens dans ma vie. Gloire à Dieu. Donc, c'est super important. Avant de parler de tous les dons spirituels et de la foi, le dynamisme de Dieu et la puissance, tout ça, on peut passer à côté vraiment la chose de base, qui est vraiment de recevoir le Seigneur Jésus. Donc, la foi salvatrice, on lit dans Éphésiens 2 et verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on voit vraiment, c'est pas par notre performance, mais c'est en plaçant notre foi dans la performance de Jésus. Ensuite, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on réalise que nous avons cette foi-là, nous avons un dépôt de foi que nous pouvons développer. Ça, c'est un autre type, la mesure de foi du chrétien. Dans Romains chapitre 12, verset 3, je vais vous inviter à tourner dans Romains chapitre 12, verset 3. Ici, on voit vraiment que chaque personne a une mesure de foi. Et on ne parle pas encore du don de la foi. Ici, on parle de la foi qu'on peut développer. OK, dans Romains chapitre 12, le verset 3, il est écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Des fois, on va parler avec des gens puis ils vont dire, « Ah ben moi, je peux pas m'attendre de vivre des grandes choses avec Dieu parce que moi, j'ai pas de foi. » Moi, vraiment, là, Non, nous avons tous une mesure de foi. Cependant, il y a des gens qui ont une foi qui est plus développée. Il y en a que leur foi est vraiment développée dans certaines choses, et il y en a d'autres, c'est dans d'autres choses, mais on peut tous développer notre foi et avoir une foi qui est soit faible ou une foi qui est forte. OK? Donc, notre foi, c'est à nous de décider comment nous allons la développer. C'est comme dans le corps physique, on peut aller faire de l'exercice ou on peut écouter la télévision et manger des chips toute notre vie. Qu'est-ce qui change? On a tous un corps, hein? On a tous reçu un corps, mais c'est nous, on décide comment on va développer notre santé à ce niveau-là. OK? Donc, on peut comprendre, on peut décider comment on va prendre soin. Certainement, il y a des choses qui rentrent en jeu, hein? On parle des fois de maladie qui nous ralentit, tout ça, mais concernant la foi, c'est semblable au corps, dans le sens que on peut développer notre foi. Donc, dans Romains 14, verset 1, ici, on est exhorté, ça dit « Faites accueil ou recevez à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Donc, il y a parmi nous des personnes qui sont faibles dans la foi. Une personne qui est faible dans la foi, c'est une personne qui, habituellement, ne passe pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, ne passe pas beaucoup de temps à écouter la parole de Dieu à la maison. C'est une personne qui vient peut-être à l'église, mais qui ne reçoit pas sur une base régulière une parole pour bâtir sa foi. Parce que, on voit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le plus qu'on reçoit de la parole de Dieu, le plus qu'on est changé, le plus qu'on est transformé et le plus que notre foi se développe, et là, on est capable de s'attendre à vivre plus des choses avec Dieu parce que notre foi, cette mesure de foi-là, a pris de l'expansion. Alors, on ne parle pas ici d'une méga foi, là où on flotte dans les airs parce qu'on a cette foi-là, mais c'est une question d'avoir une foi développée qui est forte. OK? On peut avoir une petite foi, mais très forte. Hein? C'est comme une petite goutte de poison, là, mais c'est en masse des fois pour tuer quelqu'un. Hein? Bon, ça, c'est au négatif. Mais qu'est-ce qu'on fait? On recherche à avoir une grosse foi, là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est même, on a une petite foi, une mesure, mais elle est condensée. Elle est condensée, elle est super forte parce qu'elle croit la parole de Dieu. La personne a une foi vraiment ancrée dans la parole de Dieu. Donc, ça, c'est la mesure de foi que nous avons tous ici. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager, ayez comme optique de développer votre foi. Passez du temps dans la parole de Dieu chez vous. Passez du temps à méditer la parole de Dieu pour que ça descende dans votre cœur. Parce que vous savez, quand vous allez investir le temps à déposer la parole de Dieu, votre cœur va être rempli de la parole. Et là, vous allez par conséquence, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à parler comme Dieu. Et parce que la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si votre cœur est rempli de la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous êtes rempli, vous allez commencer à parler les promesses de Dieu. Et là, ça va commencer à changer vos vies. Parce que comme vous voyez, la puissance de la vie et la mort sont la vie et la mort sont à la puissance de la mort. Donc, on peut changer notre vie en commençant à croire comme Dieu et à parler comme Dieu. Hein? Amen. C'est ça. Je me suis trompé dans mon verset, là. Mais ça veut dire, nos paroles, la vie et la mort sont aux puissances de la langue, non? Le pouvoir de la langue, qu'est-ce que... Du pouvoir, ben, ça revient à la même affaire. Hey, vous êtes religieux un matin. OK, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on peut changer les choses lorsqu'on commence à être rempli de la parole de Dieu. Amen. Amen. On a du bleu, ça ressemble à un schtroumpf ce matin. Amen. OK, donc je continue. On parle de la mesure de la foi du chrétien. Là, on va aller maintenant dans le don de la foi. Amen, le don de la foi, et on va le relire dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 9. Ça dit, un autre, la foi, bon, c'est ça, un autre, la foi, voilà. Donc, Dieu nous donne ce don-là, la foi, mais pourquoi? Je vais vous expliquer ici, c'est une conviction, une confiance surnaturelle pour un besoin à un moment précis. Il y a des gens, des fois, qui disent, bien, moi, j'ai le don de la foi. Moi, je crois que c'est ponctuel. C'est quand on a besoin de vivre quelque chose surnaturel, Dieu fait couler en nous la manifestation de ce don-là. Il va y avoir une manifestation du don de la foi pour un moment précis. OK? Et c'est vraiment, c'est surnaturel. Donc, ce n'est pas la foi que l'on a développée ou on a passé beaucoup de temps. Certainement, c'est bon de développer notre foi. Ça ne veut pas dire que là, tant qu'à y être, là, je passerai plus de temps à étudier la parole. Non, certainement, c'est relié, certainement, parce qu'il faut croire la parole de Dieu. Parce que le don du Saint-Esprit, tous les dons du Saint-Esprit sont reliés avec la parole de Dieu, certainement. Mais une des choses qu'on comprend ici, c'est que Dieu nous donne ce don-là, le don de la foi, un moment précis pour vivre quelque chose de surnaturel. Je vais vous expliquer un peu une chose qu'on a vécue dans notre vie, Mathilde et moi. Il y a plusieurs années, ma belle-sœur a eu un accident d'auto. Mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident d'auto et comment le Seigneur m'avait préparé. J'étais chez moi, j'étais en train d'écouter la télévision, une émission chrétienne, et à la fin de l'émission, il y avait une publicité pour acheter un VHS. À l'époque, c'était un VHS, OK? Et ça disait dans l'enseignement, ou en tout cas dans l'émission, ça disait « commander ce VHS-là pour apprendre comment réagir lorsqu'une personne a un accident d'auto ou comment réagir quand quelqu'un vit une crise dans leur vie. » Alors moi, quand j'écoutais ça, ça me disait dans mon esprit « commande ça, mais rapidement, commande-le aussi avec en payant des frais supplémentaires pour avoir une livraison plus rapide. » Alors, puis habituellement, je ne fais jamais ça. Habituellement, j'attends, je commande un produit, puis j'attends 2, 3 semaines ou 6 semaines pour recevoir la chose. Mais dans mon esprit, j'ai une conviction, commande ça, rush delivery. Alors, j'ai fait ça et j'ai reçu l'enseignement, le VHS. Mathilde et moi, on a écouté l'enseignement et on a vu toutes sortes d'histoires, comment des gens avaient eu des accidents et toutes sortes d'affaires. Et là, ça nous disait comment réagir par la foi quand on vit des choses semblables. Et je me doutais de rien, mais pas longtemps après, ma belle-mère, Mme Gaudreau, a appelé chez moi et puis elle a dit à Mathilde, elle dit, ta sœur vient d'avoir un accident d'auto, elle venait d'être frappée, ben, en fait, elle était dans son véhicule et puis elle avait changé le poste de radio, elle avait baissé la tête pendant quelques instants et puis là, il y avait un 10 roues qui s'en venait et puis elle a été touchée, il y a eu un impact et en tout cas, c'était terrible, c'était un accident vraiment très, très grave. Et même les ambulanciers, lorsqu'ils sont arrivés sur la scène, ils s'attendaient qu'elle était morte parce qu'elle était couchée comme ça, c'était à terre, c'était vraiment terrible. Alors là, Mme Gaudreau nous appelle, nous dit la nouvelle, et Mathilde, qui est un être humain, c'est une femme, hein, c'est en chair et en os, bien, sa réaction humaine, c'était de pleurer, c'est comme « ma sœur a eu un accident d'auto » et les émotions comme ça sont arrivées, puis c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais là, dans ses larmes, j'ai regardé Mathilde, elle venait de raccrocher. J'ai dit, c'est à notre tour. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va décider ici? La foi ou la crainte? Quel système qu'on embarque dedans? La foi ou la crainte? Puis tout de suite, Mathilde a dit, la foi. On choisit la foi. J'ai dit, voilà. Parce qu'on avait reçu l'enseignement juste à temps pour être enseigné comment réagir dans des situations comme ça. Alors, j'ai dit, OK, on choisit la foi. C'est elle qui avait décidé, on choisit la foi. Alors, là, on est parti de Bromont et... en passant, moi, quand je raconte des histoires, c'est toujours tout croche. Ma femme va pouvoir vous préciser ça après. Si vous voulez la vraie version, vous irez voir Mathilde pour les détails, OK? Parce que les femmes, eux autres, ils vont dire, « Ouais, mais je portais une chemise rose, puis il y avait des petites feuilles. » OK, mais moi, je vous donne ma version, OK, abrégée. En tout cas, sauf que là, on embarque dans l'auto, on part de Bromont, on s'en allait à Montréal, à l'hôpital Charlemagne. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à décréter la vie sur ma belle-sœur, on commence à prier pour elle et décréter la parole de Dieu. Elle vivra, elle ne mourra pas, elle vivra, elle ne mourra pas. Et là, rendu à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une salle d'attente pour la famille parce qu'ils s'attendaient qu'elle était pour mourir d'une minute à l'autre. C'était vraiment très, très grave. Et Mathilde, quand elle est arrivée là, elle avait vraiment, elle portait l'esprit du don de la foi. Elle est arrivée là, elle avait l'esprit de foi avec elle. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prier dans la salle d'attente et ça l'a vraiment chargé la place avec la foi. Amen. Et là, on s'est mis à prier. Et là, il y avait au lieu d'avoir un temps juste normal avec les êtres humains, normal, là, on s'est juste mis à prier ensemble. Mes beaux-parents étaient là. On s'est tous mis à prier dans la salle d'attente. On priait pour ma belle-sœur qui était pour vivre et pas mourir. Ça, qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-là? C'était vraiment la manifestation de ce don-là en opération. C'est pas Mathilde qui dit, « Oh, faudrait bien que j'essaie d'avoir la foi là pour elle. Puis, oh Seigneur, entreprends qu'elle meure pas, Seigneur. » Ça, c'est une autre sorte de foi. C'est comme, en fait, c'est différent. C'est totalement différent. Là, c'était comme quand elle avait choisi, « Je choisis la foi. » Là, Dieu, il a comme donné le don en opération. Puis là, elle était convaincue, elle savait dans son cœur qu'elle était pour vivre. Et on était là, à un tel point, là, elle était bénie. Je me souviens, on était dans une autre salle d'attente, là, je pense, ou peut-être pas. Mais elle s'est mise à danser comme, « Oh, hallelujah, elle va vivre. » Là, je me suis dit, « OK, là, tu charries, là. Ils vont trouver qu'on est tombé sur la tête, là. » Mais c'est quand même ça qu'elle a vécu. Puis il y a tellement une présence, une joie, une paix qui est là. C'est comme, Ah, tu sais, c'est comme on peut se reposer en Dieu. Ça, c'était vraiment un don de la foi. Mais ça vient surnaturellement pour un besoin précis, à un moment précis. On ne vit pas nécessairement toujours dans le don de la foi, là. C'est quelque chose vraiment merveilleux, mais si on pouvait chaque jour de notre vie. Mais je pense que le Seigneur, vraiment, il donne à un moment qu'on a de besoin. OK? Donc, gloire à Dieu. Puis, pensez-vous que ça serait bon de l'avoir dans l'Église? Moi, je pense que oui. Je me dis, si Dieu l'a donné à l'Église, ça serait tant qu'à y être. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas s'en servir? Il y en a qui vont dire, oh, on n'a pas besoin des dons spirituels aujourd'hui. L'Église n'a plus de besoin. Ben, moi, tant qu'à moi, moi, j'en ai encore besoin. OK? Gloire à Dieu. Alléluia. Bon. Et aussi, vous connaissez l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 6. Pensez-vous, je vous donne ça comme exemple, pensez-vous que peut-être il y avait le don de la foi en opération? Pensez-vous, avec quelques lions qui rôdaient autour de lui, je pense à quelque part, il y avait quelque chose de surnaturel dans la place. Parce qu'habituellement, des lions pourraient dire, hey, ça c'est du bon, la bonne viande, puis ils dégusteraient le prophète Daniel. Mais on voit ici un miracle, vraiment don de la foi en opération. Gloire à Dieu pour ça. Maintenant, on va voir le don des guérisons. Don des guérisons. Des fois, les gens disent, ben moi j'ai le don de guérison. Mais en fait, quand on parle dans la parole de Dieu, on parle le don des guérisons. Et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Il est écrit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. » Et qu'est-ce que je peux dire? C'est comme vous allez voir un spécialiste à l'hôpital. Admettons, vous avez un problème, je ne sais pas, avec votre peau. Bon, bien là, vous allez voir un dermatologue. C'est un spécialiste, vous allez voir. Et dans le monde de la guérison divine, c'est semblable aussi, parce qu'il y a des gens qui reçoivent une onction de Dieu spécialement pour certaines guérisons. C'est quand même spécial. Mais je connais un prédicateur, lorsqu'il prie pour les gens avec la surdité, souvent, là, on voit les guérisons au niveau de la surdité. C'est spécial. Mais c'est le don des guérisons. Oui, certainement, Dieu va guérir plusieurs personnes, mais on se réfère ici vraiment avec une onction spéciale, comme un médecin spécialisé. C'est spécial, là, quand même. Mais c'est une chose qu'on a vue dans le corps de Christ. Ça se limite pas juste, ben moi, je suis juste là pour guérir les oreilles. Parce que c'est Dieu qui guérit, en passant. Il y a aucun être humain qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Mais on voit qu'il y a des personnes qui ont vraiment une onction spéciale à un certain niveau. Donc, gloire à Dieu. Mais toujours la source de la guérison, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est quel don le plus important, là? Est-ce que je devrais demander au Seigneur la guérison ou ci ou ça? Savez-vous, le don qui est le plus important, c'est le don que vous avez besoin au moment que vous priez. Quelqu'un est malade, bien là, vous n'avez pas nécessairement besoin le don d'interprétation des langues. Quelqu'un est malade, bien, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est que le don de guérison coule à travers vos vies, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question, c'est quoi qui est le plus important? Le plus important, c'est vraiment d'être la réponse à la personne. La personne est dans le besoin, puis Dieu veut se manifester à travers vos vies. Amen. Donc, c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Donc, c'est comme un médecin généraliste, spécialiste. Tout ça, on fait la différence entre le généraliste et les spécialistes quand on parle des dons des guérisons. Et dans notre vie, moi, que j'ai vu avec Mathilde, des fois, on priait pour des personnes dans l'église. On a eu plusieurs personnes pour qui on a prié et qui ont reçu une guérison. OK, c'était une guérison instantanée. Ça, c'est vraiment un miracle qui se produit. Il y a aussi les guérisons qu'on peut voir qui sont progressives, hein, une guérison progressive où on va prier pour une personne et puis en chemin, ils sont guéris. Des fois, le chemin est long. Des fois, ça prend plusieurs semaines, des mois, des fois des années. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on croit Dieu jusqu'à temps qu'on puisse voir la pleine manifestation. On croit, bon, c'est par ses meurtrisseurs, nous avons été guéris. Ça fait déjà 2000 ans. OK, mais quand on se met en accord avec une personne qui est malade, on prie pour la personne et souvent, on peut voir une guérison instantanée, mais à d'autres temps aussi, on voit ça plus progressif. Et c'est correct. On le sent entre les mains de Dieu. On n'est pas le bon Dieu. Faites attention aussi aux gens qui vont dire, « Ben moi, je sais pourquoi telle personne n'est pas guérie. » Parce que souvent, là, savez-vous quelle onction cette personne-là a? Ce n'est pas une onction de Dieu. C'est le jugement. Puis là, de juger les gens. Nous autres, là, on ne veut pas avoir un esprit de jugement dans la place ici. Amen. On veut être rempli de compassion parce que, savez-vous, si jamais vous êtes malade, là, vous aimeriez avoir de la compassion des gens. Vous aimeriez que les gens vous entourent puis vous aiment. Puis, écoute, je sais, c'est pas facile d'être malade. Je vais prier pour toi. Je vais t'encourager. Je vais être là pour toi. Et en passant, si tu as besoin que je te fasse un repas cette semaine, appelle-moi. Ou peut-être même vous allez faire une surprise à la personne. Ça, c'est pas mal mieux que de se faire juger. N'est-ce pas? Donc, on croit dans la guérison. Il y a des guérisons instantanées, ça c'est un miracle. Et il y a d'autres, c'est des guérisons progressives. Puis on dit, tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu, qui est le bien de la personne, ben nous on dit gloire à Dieu. En passant aussi, on n'est pas contre la médecine. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais est-ce que je devrais pas prendre l'aspirine, là, si je viens de prier puis je crois que Dieu va me guérir? Moi, je crois que Dieu est capable de te guérir avec l'aspirine aussi. Amen? Ben oui. Dieu n'est pas limité. Le fait de mettre une aspirine dans la bouche, ça ne veut pas dire que hop, la foi vient d'être annulée. Non. Tout ce qui est en accord avec la guérison, Dieu est en accord. Amen. Donc, vous prenez une aspirine, priez qu'elle marche. Seigneur, je prie qu'elle marche, cette aspirine-là. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Pourquoi pas? Ben, ça ne prend pas de foi pour ça. Ben oui, des fois, vous pouvez prendre des aspirines puis vous avez mal à la tête quand même. Hein? Priez donc que ça marche. C'est vrai. Des fois, on est trop spirituel. Faut être connecté avec Dieu. Puis aussi, marcher dans les lieux célestes, alléluia, en même temps sur la terre. Faut juste trouver l'équilibre. Hein? Faut trouver l'équilibre. C'est correct, Dieu n'est pas anti-aspirine ou anti-docteur. Au contraire, moi, je suis contre ceux qui sont contre la médecine. Parce que là, ça détruit le témoignage des chrétiens. C'est terrible. Faut vraiment continuer à croire Dieu pour la guérison surnaturelle, mais même dans le naturel. Amen. Maintenant, on va voir le troisième don de puissance, le don d'opérer des miracles. Donc, l'opération des miracles. Ça, c'est vraiment intéressant. Avez-vous déjà entendu parler de Monsieur Moïse dans la Bible? Vous avez entendu d'un petit lac, la mer Rouge? Ça, là, c'est la mer Rouge. Et quand il y a une division qui se passe entre la mer Rouge comme ça, c'est un miracle. Amen. Vous pourrez lire le récit. La résurrection d'un mort. Vous priez pour quelqu'un qui était mort et tout d'un coup, il se met à respirer. C'est un miracle. Amen. Ça, c'est un don de puissance. Dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mais qu'est-ce qu'on veut souligner ici dans Matthieu 18? « Ressuscitez les morts. » Wow! Hey, c'est tout un commandement. Certains d'entre vous, vous allez dire « J'ai de la misère à prier pour quelqu'un puis les voir guéris, puis là après, faudrait même en plus avoir la foi de ressusciter les morts. » Wow! Moi aussi, je dis wow. Parce que moi aussi, je crois, si c'est écrit, on va le vivre. Amen. Et je pourrais vous raconter des histoires, mais je ne vais pas le dire. Hein? Je devrais-tu? Non. Non. Oui, oui, ils disent oui, oui. OK, je continue. Non, on n'a pas ressuscité personne. Ah, non. Mais on a essayé. Je vais vous dire. Mais une des choses, moi, je crois, là, faut vraiment croire la parole de Dieu. OK? Faut vraiment croire la parole de Dieu. Et je vais vous dire, moi, je crois où on en est aujourd'hui dans le corps de Christ en général. Moi, je crois, là, qu'on a, présentement, on n'est pas dans le réveil qu'on va vivre. OK? Juste pour vous dire ça. En passant, si vous n'avez pas remarqué, je crois qu'il y a des jours d'une grande vague qui s'en vient et où on va vivre la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Moi, je crois là-dedans. Amen. Et je crois que lorsqu'on va être dans cette saison de la gloire de Dieu, les choses qu'on a crues pendant des années, qu'on ne voyait pas comme aujourd'hui, on va commencer à voir des choses comme ça. Et je crois vraiment, on est dans une saison au tout début où la gloire de Dieu va être déversée. Mais comment ça commence? Ça commence avec l'enseignement pour que les gens puissent savoir, premièrement, c'est quoi. Et moi, je crois en tout cas que le Seigneur est en train de nous préparer à vivre plus de la gloire de Dieu, plus les manifestations de ces choses-là. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on continue dans l'école de l'Esprit, il y a un prix à payer. Pas en argent, il y a un prix à payer dans nos vies personnelles. Ça veut dire du temps qu'on va investir. Parce que vous savez, des fois, on entend parler des résurrections en Afrique. Hein? On entend parler des gens qui étaient malades en Afrique, qui ont été guéris surnaturellement, ou quelqu'un de ressuscité d'entre les morts. Il y en a plein de cas documentés comme ça en Afrique. Mais savez-vous que les Africains, quand ils vont à l'église, ils passent 6, 7, 8 heures à l'église dans une réunion? Savez-vous ça? Ça, c'est la coutume. Ils passent du temps dans la présence de Dieu, des heures et des heures et des heures de temps. Et nous, à midi pile, si on n'est pas sorti de la réunion puis si on ne mange pas notre Big Mac à midi et quart, on n'est pas content. Hein, des fois, je ne veux pas piler sur des orteils à personne. Mais savez-vous, si on compare la gloire qui se vit ailleurs et la gloire qu'on vit ici, il y a un rapport. Il y a un rapport, il y a un lien, là. Eux autres sont full présence de Dieu. Nous autres, on est dosés nord-américains. Mais pour vivre la gloire de l'Afrique, je pense qu'il faut qu'on vive des changements ici aussi. Ça va venir, hein? On fait courbe lente. Là, on va juste rajouter 2 heures à la réunion aujourd'hui, puis après ça, vous êtes libre. Non, mais il faut avoir la même soif. Puis quand on a vraiment soif de vivre la gloire de Dieu, notre vie va être impactée, on va changer, on va sortir de notre routine religieuse. Savez-vous, il va y avoir un changement. Des fois, on se demande, mais pourquoi on n'a pas plus la gloire de Dieu? Vous allez voir pourquoi, si j'y arrive. OK, on va voir maintenant une guérison miraculeuse, OK? Quand on parle le don d'opérer des miracles, dans 1 Corinthiens 12, 10, en passant au nom de Jésus, super important, parce qu'il y a des gens qui opèrent des miracles en leur nom, et c'est le nouvel âge. Ça, ces choses-là sont très dangereuses parce que ces gens-là travaillent avec des mauvais esprits. OK? Les choses dans le nouvel âge, même s'ils disent, bien, moi, je prie aux anges, moi, je fais telle ou telle chose. Ça, en fait, là, toutes ces choses-là qui sont en dehors de la parole de Dieu, bien, c'est de travailler dans le monde spirituel, mais qui est contre Dieu. Même s'il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je suis bien, je suis gentil, moi, je travaille avec les bonnes énergies. Je m'excuse. Es-tu rattaché à une église locale qui prêche Jésus, qui est le seul chemin, la vérité, la vie? Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est ça que Jésus a dit de lui-même. Si tu ne crois pas ça, si tu crois que tous les chemins mènent à Dieu, je m'excuse, tu t'es fait décevoir. T'es dans une chose en dehors de la parole de Dieu. Donc, c'est impossible que le Saint-Esprit vienne endosser ce message-là. Comprenez-vous? Si vous touchez aux choses occultes, je vais vous lire un texte. OK? On n'est pas pressé de toute façon. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 31, ça dit, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. » Avez-vous déjà entendu parler de ça au Québec? Vous allez voir quelqu'un qui va faire une séance et puis là, « Tu veux parler avec ta grand-mère? » Ben parfait, je vais l'appeler. Bon, mais la Bible nous défend de faire ça. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur que de vous souillir avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et là, dans Deutéronome, chapitre 18, Deutéronome, chapitre 18, au verset 10, il est écrit, 18, verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Ça, ici, on parle de sacrifice humain. « Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, on parle des esprits des morts, là, ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, tout de suite en partant, si vous faites affaire avec des gens qui touchent au monde occulte, le nouvel âge, qui font appel aux esprits comme ça, vous êtes en train de faire appel à des démons. Qui font semblant d'être des anges. Parce que Dieu est clair, ne les recherchez pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est rechercher Dieu. On recherche Dieu, toujours. Notre source, on ne parle pas, on ne prie pas aux anges, on parle à Dieu. Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Si vous passez par Sainte-Josephine ou Saint-Christophe ou Saint-qui vous voulez, c'est une abomination devant Dieu parce que vous priez à la mauvaise personne. Dieu nous dit, vous priez juste à Jésus, vous parlez au Père, au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit. Vous priez à Dieu, vous ne parlez pas aux hommes. Savez-vous, moi je prie pas à ma mère, puis si dans 120 ans elle décède, bien là, dans 120 ans, là, je prierai plus à Sainte Fernande. Parce que je prie pas à Sainte Fernande aujourd'hui, parce qu'elle est déjà une sainte en passant, mais je prie à Jésus. C'est ça la Bible. Si on veut marcher sur le droit chemin, faut marcher dans la parole de Dieu. C'est simple, hein? Donc, c'est pas pour attaquer personne. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aider le monde à marcher droit avec Dieu. Si on marche avec Dieu, ben là, on est protégé des choses démoniaques et les rêves, les gens après sont bourrés de rêves, ils ont toutes sortes d'affaires, des choses sombres qui arrivent dans leur maison, des ombres noires, les portes d'armoire commencent à bouger puis se demandent, ben comment ça arrive? Ben si vous ouvrez des portes à Satan puis vous marchez avec lui, ben attendez-vous de vivre des choses un petit peu bizarres chez vous après. Puis je suis déprimé, je sais pas, j'ai peur, je suis angoissé. Ben oui, le royaume des ténèbres, ça donne pas des beaux cadeaux. Par la suite. Mais si vous marchez avec Dieu, vous marchez dans le droit chemin, vous marchez dans sa parole, vous marchez dans la lumière, vous savez, dans la lumière, on n'est pas angoissé. On est dans la paix, dans la joie. C'est merveilleux. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Il veut vous protéger du mensonge. Amen. Mais pourquoi je parle de tout ça? Je ne sais pas. Alléluia. L'opération de miracle. OK, on va voir ensemble. C'est une parenthèse, OK? On se permet toutes sortes de parenthèses aujourd'hui. L'opération de miracle. On va voir ensemble ici, Actes chapitre 3 et le verset 1 à 10. Je vais lire dans français courant. Il est écrit, « Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. » Verset 3, « Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous! » L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Remarquez le verset 7. Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple et marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit, marchant et louant Dieu. Verset 10, « Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. » Ici au verset 7, ça dit, « Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. » Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent fermes. Ici, on voit l'opération d'un miracle. Ici, c'est quand on parle d'opérer, le don d'opérer les miracles, on parle ici de la personne, non seulement prie pour la personne, mais maintenant, je vais opérer le miracle en te prenant par la main et en te levant de ta place, de ton fauteuil, de ton lit, peu importe. Il y a vraiment l'opération d'un miracle. Il y a l'action de la personne pour faire en sorte que la personne puisse être guérie. Donc, voyez-vous ici une différence entre juste prier pour quelqu'un, mais après, ensuite, opérer un miracle. Par exemple, vous priez pour quelqu'un aussi qui n'a pas de jambe, vous priez et vous commandez à la jambe de pousser. Ça, c'est plus qu'une guérison. Ça, c'est un miracle, mais qui est certainement, c'est une guérison certainement. Hein. Quand on n'avait pas de jambe puis on a une après, c'est un miracle. C'est une guérison aussi, mais ça a le rapport ici, cette fois-là, avec le don d'opérer des miracles. Donc, vous comprenez à date tout ça? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, en parlant des dons du Saint-Esprit et le don d'opérer des miracles, tout ça, faut faire attention, comme je parlais tantôt, un petit peu des choses dans le monde, parce qu'il y a toujours de limitations. Tout ce que Dieu fait et les dons du Saint-Esprit que Dieu nous explique dans sa parole, bien Satan, lui, il veut gagner le combat. Donc Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'imiter toutes les choses que Dieu fait. Le diable, il pense qu'il va peut-être même gagner le combat, mais il n'a pas lu la fin du livre qui dit que c'est nous. Hein, c'est Jésus qui gagne et on est avec Jésus. Donc, il ne connaît pas la fin du livre, on dirait, parce qu'il s'essaye de gagner. Il va imiter, il va faire toutes sortes de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être vigilants et marcher dans le discernement pour ne pas se faire avoir. OK? Donc, une des choses qui vient à mon cœur, qui n'a pas rapport avec mes notes, mais vous savez, des fois, on fait des choses qui sont innocentes. Et on pense que, bon, il n'y a rien qui va se passer par la suite. Mais dépendamment même du temps que vous passez à lire des livres qui sont peut-être, selon vous, peut-être c'est juste un roman. Mais vous lisez des choses qui ne bâtissent pas votre foi. Savez-vous, vous pouvez ouvrir des portes à l'ennemi pour venir vous terrasser dans votre vie. Vous lisez des livres, je ne sais pas, Harry Potter, d'autres livres, moi je ne connais pas ça, ces livres-là, mais des choses occultes, là. Vous dites, qui vont parler de la sorcellerie. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a plein de films qui sortent au cinéma. La sorcellerie, c'est partout. On va à la librairie, au centre d'achat, en rentrant, il y a des livres sur la sorcellerie. Il y a plein de choses. On va même dans des magasins genre Dollarama, pas Dollarama comme tel, mais d'autres semblables. On arrive là, plein de choses sur la sorcellerie. Vous achetez ces choses-là pensant, ah ben, c'est pas si pire. Mais oui, c'est terrible. Vous ouvrez des portes, vous donnez des entrées à l'ennemi dans vos vies. Puis on ne doit pas faire ça. Parce que dans Matthieu 24, 24, il est écrit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, voyez-vous, il va y avoir des gens qui vont faire des miracles, qui vont impressionner les gens. Et si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on pourrait se faire avoir et se faire décevoir, se faire séduire par eux. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si la personne est vraiment de Dieu? C'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Si la personne aime le Seigneur Jésus, marche dans la sainteté, marche dans l'intégrité, vous pouvez avoir confiance que hey, cette personne-là qui connaît bien la parole de Dieu, bien, moi, je me sens à l'aise avec elle parce qu'elle honore le nom de Jésus. Mais si c'est une personne qui a une vie où on peut remettre des choses en question, où la personne vit dans l'adultère, la personne vit dans le péché, il y a toutes sortes de choses, et puis pourtant, il y a des miracles à travers sa vie, vous devez vous poser la question, est-ce que je vais me laisser imposer les mains? Est-ce que je vais même aller écouter une personne comme ça? Est-ce que je vais même aller dans la réunion d'une personne qui semble avoir des miracles, mais pourtant, je remets en question sa vie? Et je suis surpris dans le corps de Christ, parce que je peux vous dire, aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, je crois que nous sommes dans une période vraiment sombre quand même dans l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il y a vraiment peu de discernement. Je suis estomaqué. Je pourrais vous raconter des histoires que j'entends, des choses qui se passent dans le corps de Christ, puis je me dis, bien, on est dans l'apostasie. Les gens ont mis de côté la parole de Dieu. Et ce qu'on doit faire, c'est revenir à la parole de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Mais savez-vous, la gloire de Dieu, c'est toujours biblique. Les choses de Dieu vont toujours être bibliques. Alors, s'il y a quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, un prédicateur, mais qui vit dans le péché et qui a pourtant des miracles dans sa vie, bien, faites-vous pas prier par lui. Faites attention. N'allez pas célébrer quelqu'un qui ne vit pas pour Jésus-Christ. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, on manque de grâce, on manque d'amour. Non, on marche dans l'intelligence. Soyons assez intelligents pour marcher dans le discernement, parce que Dieu nous a donné une tête sur les épaules, puis il veut qu'on marche dans le discernement. Je pourrais vous raconter des histoires qui vous feraient vraiment, qui vous dérangeraient, mais je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut juste se rappeler, on peut croire dans la gloire de Dieu et vivre la gloire de Dieu, mais il faut que ça soit biblique. Okay? Dans Actes chapitre 5, versets 14 à 16, je vais vous parler un petit peu encore là, concernant la gloire de Dieu, puis pourquoi on ne vit pas plus de la gloire aujourd'hui. Mais ça va changer. Gloire à Dieu, ça va changer. Parce que des fois, on est frustré, on se dit, ben, je crois dans tout ça, je crois dans les miracles, je crois dans les guérisons, je crois dans tout ça. Mais pourquoi on n'en voit pas plus? Pourquoi qu'on n'en voit pas plus? Vous allez voir. Actes chapitre 5, versets 14 à 16. Je vais vous lire un texte ici. Actes chapitre 5, versets 14 à 16. Il est écrit, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. » Verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Wow! On veut voir ça, n'est-ce pas? Vous voulez voir plus la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On veut vivre ces mêmes choses-là. Puis on se dit des fois, mais pourquoi on n'en voit pas plus? Lisons maintenant un petit peu plus haut, dans le même texte, je crois. Actes chapitre 5, oui, c'est ça, on va aller dans Actes chapitre 5. Maintenant, on va aller juste quelques versets en haut. Qu'est-ce qui se passe? Quel était le contexte de cette église qui vivait la puissance de Dieu? Actes chapitre 5, verset 1, il est écrit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Verset 4, « S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? » Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Verset 9, alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Verset 10, « Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. » Voyez-vous ici quand la gloire de Dieu est dans une place, quand la gloire de Dieu est dans le corps de Christ d'une façon vraiment intense et glorieuse, il y a un autre côté de la médaille. Oui, il y a les miracles qui se passent, il y a les guérisons, mais il y a une crainte de Dieu qui s'installe. Il y a une grande révérence pour les choses de Dieu, pour la sainteté. Il y a une démarcation entre les ténèbres et la noirceur, une grande démarcation. Et tant et aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ n'est pas prête à marcher dans la sainteté, on doit dire gloire à Dieu qu'on n'a pas plus de la gloire de Dieu ici. Merci Seigneur. Savez-vous pourquoi? J'en veux plus. Mais je comprends que Dieu est intelligent aussi. S'il nous en donne plus, puis après tous ceux qui sont dans le péché, ils tombent morts à côté de nous, là, ça ne serait pas bien. Hein? Puis on dit, ouais, bien là, ça c'était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça fait longtemps, blablabla. Non, mais c'est vrai, on veut vivre le Nouveau Testament, mais sommes-nous prêts à vivre comme les chrétiens du Nouveau Testament? Sommes-nous prêts à marcher dans la sainteté? Sommes-nous prêts à vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur comme eux l'ont fait? Donc, moi, je crois la gloire de Dieu est pour l'Église aujourd'hui. La gloire de Dieu est pour nous aujourd'hui. Mais en même temps, la sainteté de Dieu est pour l'Église aujourd'hui aussi. On doit avoir le même désir que l'Église primitive à marcher avec Jésus et avoir une révérence pour les choses de Dieu. Quand on prend les choses sacrées de Dieu et on fait toutes sortes de choses avec, comme on voit avec Ananias et Saphira, le fait de mentir au Saint-Esprit, on voit ici, là, il y avait une conséquence qui tombait dans l'Église. Moi, je crois que le Seigneur est patient avec nous. Vraiment, là, je crois que le Seigneur est patient. Parce que moi, je sais que Dieu veut déverser sa gloire sur nous. Dieu veut sauver les multitudes autour de nous. Saviez-vous ça? Le cœur de Dieu, là, pensez-vous, c'est facile pour Dieu de relever quelqu'un qui est en fauteuil roulant. C'est comme ça, c'est super facile pour lui. Il est capable de le faire en un clin d'œil. Mais pourquoi on ne voit pas plus de ces choses-là? Parce que quand la gloire va envahir, moi, je crois que la gloire va rester avec nous. Mais cette gloire-là, il faut qu'on soit capable de gérer la gloire de Dieu. Puis peut-être ce matin, je parle puis vous comprenez pas, je sais pas si je m'explique bien, là, mais moi, je crois, comme on va rechercher la présence de Dieu, comme on va être dans des temps vraiment où on va être consacré à Dieu et on va honorer les choses de Dieu, watch out, la gloire de Dieu va envahir. Puis ça sera pas juste l'Église de la Victoire aussi, nous autres, on va vivre quelque chose, l'Église d'à côté. Moi, je crois là que quand le vent de l'Esprit va venir, là, il va y avoir des gens. Moi, savez-vous, j'ai même la foi. Écoutez bien ceci, ça va déranger certains d'entre vous. Je crois même les témoins de Jéhovah et les Mormons vont recevoir un vent. Et là, ils vont dire, mais c'est quoi qui se passe? Et là, les gens vont se tourner vers Dieu, vont se repentir, vont être sauvés. Ça avait été prophétisé. Moi, je m'attends à une récolte massive. Mais quand il va y avoir une récolte, est-ce qu'on va être tout croche? Est-ce qu'on va être tout croche, puis là, les nouveaux arrivent, puis, ben fais comme moi, viens à l'église aux 6 mois, paye pas ta dîme, sac contre ton pasteur. Non, et regardez, on le vit pas ici, là. Non, mais je fais juste dire, est-ce que quand Dieu va déverser sa gloire, là, il va avoir un peuple, là, de saints, des vrais saints, qui vont marcher avec Dieu, puis qui vont récolter ces âmes-là. Mais imagine si Dieu envoyait son esprit, il y a plein de miracles qui se passent, mais on est tous tout croche. Puis là, l'armée est faible. Puis là, c'est comme, on n'a pas de direction. Il n'y a pas d'honneur dans les églises pour les pasteurs. On parle contre les pasteurs. « Hey, Joe Blow, viens ici. » »« Hey, ça ne se passera pas de même avec Dieu. » Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Faut ramener là de la révérence dans nos églises au Québec. Puis quand il va y avoir de la révérence pour les choses de Dieu, qu'est-ce qui est sacré, moi, je sais là que Dieu va nous visiter. Ça veut pas dire qu'on vit pas de miracles aujourd'hui. Il y en a des choses qui se passent. Il y a des temps, oh wow, c'est glorieux, on vit la présence de Dieu. Puis je me réjouis de ces choses-là. Mais ça, c'est juste un petit goût des choses qui sont à venir. Il y a bien plus de choses qui s'en viennent, là. Moi, je suis pas satisfait d'avoir des gens qui sont malades parmi nous, que ça fait longtemps. Moi, je sais que Dieu, là, il veut faire des grandes choses et ça va venir. Et même aujourd'hui, on peut commencer à le vivre. Moi, pensez pas que je l'aimais Dieu puis que je dis un jour, on va vivre la gloire de Dieu. Oui, un jour, on va le vivre, mais aujourd'hui, on peut le vivre aussi. Voyez-vous, je dis pas que c'est juste pour demain. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'un grand réveil d'un mouvement de l'Esprit de Dieu, je crois pas qu'on est dedans encore. Je crois qu'on est dans les pieds, là, on se baigne dedans, on le ressent, on veut le vivre, on a cette soif, ce désir-là. Mais quand ça va venir, là, on va être prêt. On va être prêt pour le gérer. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, si vous êtes fidèles dans les petites choses, il va nous en confier les plus grandes. En ce moment, est-ce qu'on est même fidèles à gérer qu'est-ce que Dieu nous donne là? Savez-vous que Dieu vous a donné le ministère de réconciliation, d'amener les âmes à Christ? Est-ce qu'on fait même prendre soin des gens puis leur parler de Dieu? Est-ce qu'on est même obéissant à ce point-là? Pensez-y, ça c'est votre ministère. Vous dites, c'est quoi mon ministère? Votre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Parlez-vous aux gens de Jésus autour de vous, parlez-vous de la joie que vous avez reçue, comment vous avez été guéri, comment vous avez été délivré. Si vous ne le faites même pas, puis là vous aspirez à un ministère de guérison puis ressusciter les morts, aïe aïe, pensez-vous que Dieu va le faire? Honnêtement, là, pensez-y. Si moi, là, je suis un multimillionnaire et je veux que quelqu'un gère de l'argent pour moi, est-ce que je vais prendre quelqu'un qui a fait faillite 10 fois ou je vais prendre quelqu'un qui sait comment gérer les choses? Pensez-y, Dieu, il est pas fou. Non, mais pensez-y vraiment. Donc, si Dieu nous donne un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Si on est fidèle là-dedans, on prêche l'évangile aux gens, on parle aux gens de Dieu, et là, on commence à récolter des âmes, et là, on marche dans l'honneur que Dieu nous appelle à marcher dedans. Et là, comme Dieu commence à voir, il y a vraiment une église qui s'installe, des gens qui commencent à vraiment m'aimer, qui aiment ma parole, qui marchent dans la sainteté, ça va pas tout croche. Ben là, je peux commencer à augmenter mon niveau de gloire. En passant, c'est pas qu'on achète la gloire de Dieu, c'est pas ça, là. Mais il y a un prix à payer pour vivre plus la présence de Dieu, parce que plus la présence de Dieu implique plus de fruits. Puis est-ce qu'on va faire pourrir ces fruits-là ou ça va les entretenir? Est-ce qu'on va les mettre dans le frigidaire au bon moment? Des raisins laissés sur le comptoir, puis quand le soleil tombe dessus, ils ratatinent, ils sont moins bons. Dieu veut des bons fruits conservés. C'est vrai, pensez-y. Donc moi, je veux plus la gloire de Dieu, mais ça vient à un prix. Ça vient un prix de consécration, ça vient un prix de marcher vraiment dans ce que Dieu nous appelle à marcher. Et puis, il y a déjà le temps. Il me restait juste 4 pages. Ah, on continuera la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Je veux vous parler un petit peu, qu'est-ce qui peut vraiment nous aider à rentrer dans plus de l'onction de Dieu. On va parler, il y a tellement de choses, puis mon cœur se réjouit, parce que cette semaine, je priais, puis c'est comme, ça, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Puis il y a des choses, Seigneur, que... on comprend pas pourquoi telle chose se passe pas encore. Puis cette semaine, c'est comme Seigneur m'emmène des choses, là. C'est même jusqu'à hier soir, puis je suis comme, aïe aïe. Tu sais, on voit vraiment le Seigneur est en train de préparer son Église. Puis il y a d'autres choses que je veux vous partager, là. Mais une des choses, savez-vous, je vais vous dire tout de suite. Une des choses, c'est que dans les Églises qu'on a présentement en Amérique du Nord, l'Église, le modèle typique de l'Église est anti-biblique. Savez-vous ça? La majorité des églises sont gérées par un pasteur. Et Dieu a appelé des pasteurs. On a vu Éphésiens 4, 11 à 16. Dieu a appelé des pasteurs. Mais savez-vous, dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, son idée pour l'église, c'était que l'église soit dirigée par les 5 ministères. Il y a toujours un responsable, un apôtre. Il y a toujours, oui, le Seigneur a un leader. Dieu a toujours eu des leaders comme Moïse qui sont là pour chapeauter, donner une direction. Mais en général, quand on parle que l'Église est supposée d'avoir les 5 ministères relâchés, bénis et qui travaillent avec le peuple de Dieu, ça, c'est le modèle biblique. Moi, je crois là qu'on arrive dans un temps, puis j'avais plein de notes à vous dire, là, mais on arrive dans un temps où Dieu va faire une réforme de l'Église. On rentre dans une période, pour vivre la gloire de Dieu qui a été prophétisée, qu'on va voir, il doit y avoir une réforme de l'Église pour accueillir les âmes qui s'en viennent et pour gérer la gloire qui s'en vient. C'est pas que l'homme va dire, OK, Dieu, toi, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est pas qu'on gère ça à ce niveau-là d'une façon humaine, mais pour savoir, comment dire, comment se baigner dans la rivière. Comprenez-vous? Ça va comment nager. C'est super difficile de prêcher un message comme ça, parce que c'est un petit peu abstrait. Mais pour vivre vraiment dans la gloire de Dieu, il y a des choses qui doivent changer. C'est pas qu'on achète la gloire de Dieu, mais Dieu veut, il veut faire une réforme dans nos églises où les 5 ministères sont relâchés. Et en ce moment, au Québec, j'en connais aucune église que les 5 ministères, mais nous, on est rendu 4. 4 sur 5, c'est pas si pire. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir les 5 ministères ici et on prie que Dieu bâtisse vraiment l'Église avec les 5 ministères et j'ai la foi que Dieu va le faire. Et ma prière, c'est que Dieu fasse de nous un modèle. Un modèle où les gens vont dire, « Hey, ça marche là-bas! » Souvent, savez-vous pourquoi les gens ont peur d'avoir 5 ministères dans une église, les 5 ministères d'Éphésiens 4? Parce que les gens se disent, « Ouais, ben, le pasteur se dit, ben là, j'aurai pas ma place aussi souvent. » Ou peut-être quelqu'un va parler dans mon dos ou blablabla. Là, il y a comme une peur d'avoir une perte d'autorité ou en tout cas, je ne sais pas trop. Mais ça, c'est toujours encore un esprit de contrôle finalement, c'est ça. Un esprit de contrôle, un esprit de crainte. Mais savez-vous, la crainte, c'est l'opposé de la foi. Dieu ne va pas bénir ça. Mon cher pasteur, ah, t'es bourré de crainte, tu ne veux laisser jamais ta chair. Il n'y a personne qui va prêcher chez vous parce que tu as bien peur. C'est correct, je te comprends. Moi aussi, si j'étais toi, je serais comme toi. Non, Dieu ne fera pas ça. Mais les 5 ministères sont là pour le corps de Christ. Ils sont là, les 5 ministères et les 9 dons spirituels sont là pour l'Église. Mais qu'on puisse dire oui au Seigneur et vraiment mettre notre maison en ordre. Mettre notre maison en ordre selon le modèle biblique. Pas le modèle qu'on a vu depuis 35 ans de vie chrétienne. Dis, ben moi, on a toujours eu un pasteur, puis c'est tout. Dans la Bible, on avait les 5 ministères qui étaient donnés à l'Église. et c'est mon cœur ici. On veut voir les cinq ministères relâchés dans cette église et vraiment voir la gloire de Dieu. Et là, savez-vous, quand on va vivre la gloire de Dieu et les gens, tout le monde ici, vous marchez dans l'honneur, vous marchez dans l'amour, vous marchez avec la connaissance des dons spirituels, vous savez comment c'est supposé de marcher. Quand il y a quelque chose de tout croche qui va se passer, une imitation, vous allez voir une imitation, vous allez pouvoir le discerner. Vous allez dire, ça, c'est pas de Dieu. On va pas encourager telle ou telle chose. Mais quand on n'a pas de discernement, des fois, il y a eu des temps où l'Esprit de Dieu est venu, et là, dans un temps de la gloire, là, quelqu'un s'est infiltré dans l'Église. Même, on pourrait dire, une sorcière qui arrive dans l'Église, quelqu'un du monde qui joue dans le monde des ténèbres arrive, puis là, cette personne-là se dit, « Ben, moi, je suis prophète. » Ah oui? Puis tout le monde, les gens qui ne connaissent pas vraiment le monde prophétique, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment discerner. Et là, la personne commence à faire plein de manipulations, plein de choses. Et là, les gens sont blessés. Ça, c'est, il y a une dimension de la gloire qui est venue. Mais là, l'ennemi, lui aussi, essaie de s'infiltrer à ce moment-là. Et ça détruit qu'est-ce que Dieu voulait faire. Mais si on est vraiment ancré dans la parole de Dieu et on est tellement proche du Saint-Esprit qu'on peut reconnaître qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est du diable, oh, on ne se fera pas avoir, enfant de Dieu. On ne se fera pas avoir, mais on va marcher dans la vérité. Moi, là, en tout cas, je peux vous dire, on n'a pas une église ici pour avoir des réunions. On a une église ici, c'est pour voir la gloire de Dieu venir ici à Granby, à Bromont, dans la région, faire un impact dans la francophonie, partout au Québec et à travers le monde. Ça, c'est notre cœur. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas juste des réunions du dimanche matin. On veut vivre la gloire de Dieu, tout ce qui a été prophétisé dans la parole et les prophéties qui ont été données sur le Canada, sur la nation du Canada, qui va dominer d'une mer à l'autre. From sea to sea, ça me vient en anglais, mais en tout cas, que la gloire de Dieu va être déversée sur le Canada. Moi, j'y crois. J'y crois, c'est pour nous, mais il faut juste qu'on dise oui, Seigneur, et que notre vie puisse aussi se mettre dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment finir ce message-là ce matin, ça serait impossible, parce que je n'ai pas fini. Je suis rendu à moitié de mon message. Mais gloire à Dieu, on va continuer. Vous allez être là dimanche prochain, parce que vous êtes tous fidèles en plus, hein? Alléluia!
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.